Oh, oh, Ogapi. Le journal Mireille Bokassa. Ogapi. Jean-Pierre Bemba reste en détention provisoire. La chambre de mise en accusation vient de rendre sa décision, mais les avocats de Jean-Pierre Bemba ne baissent pas les bras. Ils comptent attaquer non seulement cette décision, mais également la validité du mandat d'arrêt de la CPI contre le président du MSC. À la une également, le coup d'envoi du programme sino-congolais dans son volet infrastructure à Kinshasa. Il a été donné cet après-midi par le chef de l'État. Dans la seconde partie de notre édition, nous parlerons du phénomène demi-terrain, une pratique courante à Kinshasa pendant la saison sèche. Nadine Foula nous en dira plus. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jean-Pierre Bemba reste en détention provisoire. Décision de la chambre de mise en accusation qui a rendu sa décision cet après-midi. Selon Maître Aimé Kilolo, l'un de ses avocats, une audience est prévue ce mardi à la Cour de cassation de Bruxelles. Audience au cours de laquelle la défense de Jean-Pierre Bemba compte attaquer à la fois la décision de la chambre de mise en accusation, mais également la validité du mandat d'arrêt de la CPI contre Jean-Pierre Bemba. Maître Aimé Kilolo, joint depuis Bruxelles par Axel Goncho.
Nous venons effectivement de prendre connaissance d'un arrêt qui a été rendu par la chambre de mise en accusation, qui a estimé actuellement ne pas pouvoir accéder à notre demande de mise en liberté provisoire. En dépit de la décision prise aujourd'hui, M. Bemba reste en Belgique. Il ne peut pas être transféré encore à ce stade à la haie. Nous attendons une décision qui sera prise la semaine prochaine. L'affaire sera appelée à l'audience du mardi devant la Cour de cassation. Nous avons deux possibilités mardi. La Cour de cassation peut soit dire nous cassons la décision, cassation pure et simple, sans renvoi, M. Bemba est libéré, soit de dire nous cassons, mais c'est une cassation avec renvoi. Ceci veut dire que l'affaire de la validité du mandat d'arrêt va de nouveau retourner devant une chambre de mise en accusation.
Justice toujours, la chambre préliminaire 1 de la CPI a ouvert aujourd'hui l'audience de confirmation des charges à l'encontre de Germain Katanga et de Mathieu Ngoudjolo Tchoui. C'était en présence des deux suspects et de leur conseil, de l'accusation et des représentants légaux des victimes. L'audience de confirmation des charges avant le procès se poursuit jusqu'au 16 juillet 2008. Dans un délai de 60 jours à compter de la fin de l'audience, la chambre préliminaire rendra sa décision par écrit. Insécurité dans certains coins du pays, d'abord au sud Kivu, où une grande partie de la population du groupement Chirunga à Kabare Centre déserte ses villages. Elle redoute la reprise des affrontements entre deux bataillons de la 14e brigade intégrée déployée sur place. Même les épouses des militaires fuient aussi vers la commune voisine de Bagira sur demande de leur mari. Malgré l'appel au calme lancé la journée par le commandant de la 10e région militaire, la population reste inquiète. Le commandement de la 14e brigade précise, lui, que les troupes ont été causés par des tirs occasionnés par deux militaires de la même brigade. Jean Kassami revient de Chirunga. Voici son reportage.
Partout dans les rues, on voit des colonnes de personnes avec bagages au dos et sur la tête. Elles disent avoir été terrorisées par des tirs nourris qui ont duré la nuit d'hier de 20h30 jusqu'à 4h du matin. Des sources militaires à Chirunga l'on précise qu'un militaire a trouvé la mort et trois autres sont blessés. Le chef des centres de négoces, lui, parle de deux militaires tués et de quatre civils blessés. Il précise également que plusieurs biens ont été pillés dans des boutiques et dans des habitations. On écoute cet habitant rencontré en train de fuir avec sa femme et ses trois petits-enfants. Il explique pourquoi ils ont décidé de fuir leur village.
Les femmes des militaires de la 14e brigade aussi ont été délogées par leur mari pour que, quand ça va chauffer, leur famille ne se retrouve pas victime de ce qui va arriver.
Le commandant de la 14e brigade a rassuré que ce qui s'est passé hier ne se reproduira plus, mais il a sollicité de sa hiérarchie le redéploiement rapide de cette brigade. Notons justement que le redéploiement de cette brigade ne fait pas l'unanimité en son sein. Certains bataillons désirent qu'ils soient déployés dans la partie sud de la province, tandis que d'autres préfèrent soit le nord Kivu ou rester à Kabare. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Au nord Kivu également, l'insécurité bat son plein à Kaina. On enregistre des pillages à répétition des boutiques et magasins par des hommes en uniforme. Pour protester contre ces pillages, ce vendredi, la cité de Kaina est restée paralysée. Les commerces n'ont pas ouvert, les paysans n'ont pas vaqué à leurs activités champêtres ni pastorales. Ceci en réponse au mot d'ordre de ville morte lancé par la section locale de la Fédération nationale des entreprises du Congo. Pendant ce temps, à Mbujimayi, de nouvelles mesures pour lutter contre l'insécurité montante ont été prises hier jeudi par le Conseil provincial de sécurité. Désormais, les chefs des quartiers vont mettre la main à la pâte en collaborant avec les sous-commissariats de police de leur juridiction. Quant aux chefs des rues, ils doivent procéder au recensement des habitants de leur ressort. Une prime de motivation leur sera remise chaque mois. Cathy Kataï pour les détails.
L'idée est de mettre la population à contribution. Pour ce faire, les chefs de quartier devront collaborer avec les différents sous-commissariats de la police de leur juridiction. Les populations de ces quartiers devront aussi participer à la patrouille. À tour de rôle et en petit groupe, des jeunes gens du quartier accompagneront les éléments de la police dans ce travail. Une prime de 15 000 francs congolais sera remise chaque mois aux chefs de quartier pour le café des patrouilleurs. Le gouverneur de province qui lance cette opération demande aux chefs de rue de faire le recensement des habitants de leur ressort. Ils doivent aussi connaître l'habitation de tout un chacun. Car selon lui, ceux qui sèment l'insécurité sur la ville vivent dans la population. Pour le suivi de ces nouvelles mesures, un conseil de sécurité élargi se tiendra une fois par mois pour tirer les leçons. En attendant, une commission d'enquête a été mise sur pied pour faire la lumière sur l'attaque du 24 juin dernier dans la commune de Bipemba. Cette attaque avait fait 2 morts et 15 blessés graves suite à l'explosion de la grenade d'un bandit qui voulait se soustraire à la vigilance des policiers. Les résultats de cette enquête sont attendus dans 24 heures. Katika Taïm Boujumaï, Radio Okapi.
Le coup d'envoi du programme sino-congolais dans son volet infrastructure à Kinshasa a été donné cet après-midi par le chef de l'État, Joseph Kabila. Il concerne la réhabilitation de 2 tronçons de l'axe 1 de la voirie kinoise. La cérémonie de ce coup d'envoi a eu lieu à Kinsuka, dans la commune de Ngalema, Agathe Ponin.
L'axe 1 de la voirie kinoise va de l'avenue de la Paix à Kisanso, en passant par l'avenue du Tourisme de la Montagne jusqu'à la carrière de Lutendele. La réhabilitation se fera sur 2 tronçons. Le premier, avenue de la Montagne, rond-point du Lion, avenue du Tourisme, avenue de l'École, Kintsuka Pompage, avenue Nzolana jusqu'à Lupen. Le second concerne l'accès aux carrières de Lutendele. Cet axe est concerné par la construction et la modernisation dont le lancement a été donné aujourd'hui. Il est d'une longueur totale de 67 km. Selon le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, ces travaux permettront de doter la ville d'une voirie moderne, de désengorger les routes et d'améliorer les conditions de transport des Kinois. Ils permettront également de désenclaver les quartiers Pompage et Mboudi, sans compter que du point de vue socio-économique, les entreprises locales pourront avoir des marchés à travers la sous-traitance. Ces travaux sont financés par Exim Bank, exécutés par le groupement des entreprises chinoises, avec comme maître d'ouvrage le ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction.
Signalons qu'après le lancement de ces travaux, Joseph Kabila est allé à Kadanga où il est arrivé aux environs de 18h heure locale. C'est pour la commémoration du 48e anniversaire de l'indépendance du pays. Selon des sources proches du gouvernorat de province, le chef de l'État profitera aussi de son séjour pour lancer certains travaux de réhabilitation. Un autre lancement des travaux, mais cette fois-ci au Nord Kivu, par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Alain Doss a personnellement lancé ce vendredi à Sake les travaux de réhabilitation de la route Sake-Massissi. Le démarrage effectif des travaux de cette route longue de 56 km est prévu pour la première quinzaine du mois de juillet prochain. Il sera réalisé par l'UNOPS, un service spécialisé du PNUD qui s'occupe des urgences grâce aux CUIPS disponibilisés par la MONUC. José Deschartminga.
C'est au pied d'une immense montagne, au croisement des axes Sake-Bukavu et Sake-Massissi, qu'Alain Doss vient de donner le coup d'envoi de ses travaux. Longue de 56 km, la route Sake-Massissi est réhabilitée dans le cadre de la stratégie pour la sécurité et la stabilisation à l'est de la RDC. Un programme des Nations Unies qui concerne 5 provinces et qui bénéficie d'un premier financement des Pays-Bas de l'ordre de 24 millions de dollars américains. Ces travaux seront exécutés par le Bureau d'exécution projet des Nations Unies, UNOPS, avec l'appui des engins lourds de la MONUC. Le tout pour une durée de 3 mois, selon l'UNOPS. Dans son mot de circonstance, le gouverneur intérimaire du Nord Kivu a déclaré que c'est cette route qui a toujours été empruntée dans toutes les guerres pour les mouvements des populations. Elle relie en effet le Nord Kivu à la province orientale via Massissi et Walikale. Occasion pour Alain Doss de déclarer, autrefois sentier des guerres, cette route doit être transformée en un chemin de la paix. Depuis la base militaire de la MONUC à Sake, José Deschartemenga, Radio Okapi.
Signalons que peu après le lancement des travaux de cette route, Alain Doss a présidé la cérémonie de décoration des médailles au contingent indien de la MONUC basé à Sake. instaurer une gestion active et participative des forêts de la RDC. Tel est l'objectif de la première réunion du comité de pilotage du projet foresterie communautaire. Réunion ouverte vendredi à Kinshasa par le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement. Selon ce dernier, ces travaux visent à améliorer les conditions de vie des populations autochtones des forêts à travers l'implication des communautés locales, le partage équitable des dividendes des forêts et la gestion durable et participative de ces forêts. Ces travaux réunissent des représentants du ministère de l'Environnement, des ONG locales et internationales, la FAO et l'attaché à la coopération de l'ambassade de Belgique en RDC.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Marco Mulumba, d'abord le Bas-Congo, précisément à Matadi, où les services spéciaux de la police ont saisi hier un lot important de t-shirts avec mention Fondation General House.
C'était au quartier Mbouzi, dans la commune de Mvunzi. Selon l'inspection provinciale de la police, une enquête est ouverte pour mettre la main sur l'initiateur de ce projet et ses complices. L'inspection provinciale de la police Bas-Congo estime que ce projet à caractère politique risque de ternir l'image de marque de l'inspecteur divisionnaire adjoint Raius Tchalwe.
Marco, nous sommes en pleine saison sèche, tout le monde le sait, et à Kinshasa, un phénomène est souvent remarquable durant cette période. C'est le phénomène communément appelé demi-terrain.
Demi-terrain, cette pratique consiste à ne laver que les parties visibles du corps humain. Certains justifient cette pratique par la crainte d'attraper un coup de froid. Une question se pose cependant, celle de savoir si la pratique du demi-terrain est conforme aux règles d'hygiène. Nadine Foula s'est penchée sur ce sujet suivant son reportage.
Se laver pendant la saison sèche est tout un calvaire. Il fait tellement froid durant cette période qu'on craint d'attraper un coup de froid. C'est ainsi que certaines personnes ont pensé ne laver que les parties qui sont visibles, telles que les visages, les bras et les pieds. Quelques personnes interrogées ont des avis partagés à ces sujets.
C'est que se laver demi-terrain, on perd du froid durant la saison sèche. Pour moi, je ne peux jamais le faire.
Pour moi, ce n'est pas mauvais de laver une partie du corps. Au contraire, ça nous aide beaucoup. Avec beaucoup de parfums sur le corps, le tour est joué.
C'est normal pour un homme de laver une partie de corps durant cette période, mais pour une femme, il faut plutôt chauffer de l'eau avant de se laver.
La pratique du demi-terrain n'est pas recommandée. Chaque matin, il faut se laver tout le corps au lieu d'une seule partie seulement. En tout cas, ce n'est pas bien.
Un médecin que nous avons interrogé estime que la règle d'hygiène exige qu'on se lave le corps, quelle que soit la température. On écoute Dr Manuka, il est médecin au centre médical de la DGI.
Bien que c'est la saison sèche, l'organisme fonctionne 24 sur 24. Nous devons nous laver complètement. De la tête jusqu'au pied. Si quelqu'un a froid, c'est question de chauffer un peu de l'eau. Ce n'est pas nécessaire de se laver une partie et l'autre partie vous laisser. Ce n'est pas hygiénique. Puisque à partir du moment que nous laissons une partie sans dans la malpropreté, c'est vraiment une source des infections, ces microbes qui peuvent provoquer certaines maladies.
Il est donc important de se laver tout le corps.
Terminons par la province du Maniema avec cet incendie qui s'est produit hier à Salamabila, à plus de 300 km de la ville de Kindu.
Plus de 250 maisons calcinées et deux ont brûlé. Ces derniers sont hospitalisés dans un hôpital de Salamabila. Une femme d'une cinquantaine d'années hypertendue est morte sous le choc de voir sa maison et ses effets brûlés. Témoignage d'Atibou Ibrahimou, coordonnateur du groupe Génération Ramazani Shadari. Il est joint par Rigobert Yuma Ndouani.
Cela a commencé hier à 12h20 à partir de la maison d'une maman appelée Sophie qui vend des poulets au marché. Elle a vu le feu commencer chez elle quand elle était au marché. De là, le feu a pris l'église Selpak de Kimbaseke et s'est propagé de 12h20 jusqu'à 15h30, 16h. Le nombre de maisons brûlées s'élève à 254. Tous les effets ont été brûlés. Les habitants sont sans abri. Il y a eu deux hommes brûlés. Un à l'épaule, un autre à la jambe. Ils sont tous hospitalisés. Toujours ici à Salamabila. Et une femme souffrant d'hypertension est morte par choc de voir sa maison et tous ses effets brûlés, mais elle n'a pas été touchée par les feux. On ne sait pas l'origine de ce feu. Tout le monde est traumatisé ici à Salamabila.
Toujours à propos de cet incident, l'administrateur de Kabambaré affirme que plus de 1600 ménages sont sans abri. Il ajoute que cet incendie est le 20e en l'espace de 3 ans et l'origine de cet incendie n'est toujours pas révélée, mais les investigations continuent.
Merci Marco pour toutes ces informations. Les léopards juniors de la RDC sont à Brazzaville depuis cet après-midi. Ils sont en route vers Pointe-Noire où ils seront reçus demain samedi par les Diables Rouges, champions d'Afrique en titre. Ce sera en match aller du premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations de moins de 20 ans qui aura lieu en janvier 2009 au Rwanda. Et c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis.